Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Cédric Villani, député de l'Essonne, mathématicien, membre de l'équipe de campagne de Yannick Jadot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Cédric Villani, Yannick Jadot a présenté son programme il y a quelques jours. Selon lui, le culte de la croissance aveugle, l'individualisme, l'effondrement de la biodiversité, les féminicides et le dérèglement climatique ne sont pas une fatalité. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration. Il faut que la question du climat arrive en tête des questions discutées lors de cette élection présidentielle.
Il est évident que si on continue à parler toujours des mêmes thèmes, certes importants, mais sans prendre en compte les enjeux majeurs d'aujourd'hui et de demain, climat, environnement, biodiversité, pollution, santé et bien-être pour nous dans l'avenir, nous n'irons pas bien loin.
Alors, de nombreux Français sont d'accord avec le diagnostic fait par les écologistes, mais ils craignent aussi des mesures qui changeraient trop radicalement leur mode de vie. Est-ce que la sobriété à laquelle aspire Yannick Jadot sur la question du climat, par exemple, va impliquer des sacrifices pour chacun d'entre nous ?
Moi, les sacrifices que je vois surtout, c'est ceux qui tomberont sur nous de façon impossible à prévenir, à empêcher, si nous continuons sur la même voie que nous le faisons depuis des décennies. Regardez les prévisions du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique, les prédictions de l'IPBES sur les conséquences de l'effondrement de la biodiversité, regardez la série de catastrophes météorologiques par lesquelles nous sommes passés ces derniers mois. Il y en a presque toutes les semaines maintenant, voire tous les jours. Et vous avez un aperçu de ce qui se prépare si nous ne saisissons pas ces enjeux. Maintenant, disons-le aussi, quand on parle de sobriété ou quand certains parlent de décroissance, ce qui est derrière, c'est pas la fin du monde, c'est pas un chemin de régression, au contraire. C'est une façon de mettre en priorité ce qui compte vraiment, la santé, le bien-être, la bonne adéquation, la bonne harmonie avec la nature, pouvoir redécouvrir ce que c'est que de se mouvoir dans un air pur, que de pouvoir utiliser votre vélo plutôt que de passer votre vie dans des embouteillages, de plus être dépendant des prix du carburant, des prix de l'énergie, mais de pouvoir reprendre la main sur votre destin.
Si on réduit, par exemple, la part de l'électricité nucléaire, est-ce qu'il faudra réduire aussi notre consommation d'énergie, ou bien les énergies renouvelables vont-elles compenser la fermeture des centrales ?
Ce qui est pragmatique, et c'est bien ce que dit Yannick Jadot dans ses dernières interviews, la sortie du nucléaire ne doit pas se faire trop vite. Pas avant que les énergies renouvelables n'aient augmenté à niveau. La priorité, si vous voulez bien, c'est pas la question nucléaire qui, hélas, a tendance à prendre toute la place médiatique dans le débat sur l'énergie. La priorité, c'est la décarbonation. Et la décarbonation, ça veut dire abandonner les véhicules polluants, abandonner le chauffage au fioul et passer à toute une série de comportements qui nous feront de passer des énergies carbonées, qui permettront d'éviter de continuer à dérégler le climat, et qui feront qu'on reprendra aussi la maîtrise de notre destin énergétique. Et bien plus important, par exemple, de parler du vélo électrique comme moyen de transport d'avenir, meilleur pour la santé, meilleur pour les embouteillages, plus rapide dès que vous êtes dans un contexte urbain en vrai que la voiture ou que les transports en commun, dans bien des trajets, que de parler d'autres évolutions.
De la même façon, il faudrait par exemple encourager davantage le télétravail qui a bien fonctionné durant cette crise sanitaire.
On l'a très bien vu, hein, le télétravail, quand c'est à trop forte dose, c'est quelque chose de très douloureux. C'est douloureux pour la concentration, c'est douloureux pour la frustration, c'est douloureux même au plan physique. Mais quand c'est à une dose raisonnable, ça veut dire plus de temps dégagé pour la famille, pour être avec ses proches, moins de temps passé dans les transports. Et je dirais, si chacun a droit à 2 jours de télétravail par semaine, en fonction évidemment des contraintes et des besoins qui viennent avec le poste, ça sera un progrès de société. Ça veut dire encore plus de temps que vous pourrez employer à préparer le repas chez vous avec votre famille, à prendre du temps pour regarder un film ensemble ou parler des résultats à l'école de vos enfants, du temps qui sera mieux employé que de passer là encore une partie de votre journée dans les transports.
Cédric Villani, les écologistes veulent réduire le trafic aérien et promouvoir les transports plus lents et moins coûteux en CO2. Mais quand vous allez sur le site de la SNCF, il faut avoir un bon niveau de vie pour prendre le train. Et puis je pense aussi au voyage à l'étranger. Est-ce qu'il va falloir que les jeunes renoncent à visiter l'Asie, les États-Unis par exemple, contrairement aux Français plus âgés qui ont eu la chance de découvrir le monde?
Vous pouvez mettre aussi dans la balance, moi-même, avec ma carrière de scientifique, ai eu l'opportunité de découvrir le monde entier. Avec, et j'en suis pas particulièrement fier maintenant que je m'en rends bien compte, un bilan carbone désastreux, et avec une vie de dingue où j'allais chaque année dans 20 pays différents à grand renfort d'avion. Cette époque-là n'est plus, en tout cas j'ai fait un trait dessus. Et l'avenir, très clairement, elle va être au mode de transport plus lent, dans lequel on prendra le temps aussi de découvrir davantage. Il va être au voyage plus long, mais ça ne veut pas forcément dire une qualité de voyage moindre. Au contraire, ça pourrait être le prendre le temps de redécouvrir, de prendre le temps de visiter en profondeur et en les pays qui seront sur notre agenda.
Cédric Villani, Emmanuel Macron n'a pas interdit le glyphosate pour préserver certaines filières comme celle des betteraves. Est-ce qu'il y a des alternatives au glyphosate et plus généralement aux pesticides? Est-ce que pour lutter contre l'agriculture intensive et l'élevage industriel, on peut en même temps préserver une alimentation qui soit à prix raisonnable?
Évidemment, la sortie de l'agriculture intensive, la sortie de l'élevage intensif, ça fait partie des directions de progrès que notre société doit prendre pour des questions de santé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous consommons trop et qu'il y a quelque chose comme 30% de gaspillage alimentaire, 30% de la production qui se retrouve directement à la poubelle. Pour des raisons d'éthique et en particulier de conditions animales, je vous rappelle que la majorité des animaux qui sont élevés aujourd'hui en France, on parle de presque un milliard d'animaux qui sont abattus chaque année. La majorité d'entre eux n'ont connu que de l'élevage intensif. Ça veut dire des poulets à entasser à 22 individus du mètre carré. Ça veut dire des cochons qui n'ont connu que le béton et l'enfermement durant toute leur vie et qui jamais auront connu un rayon de soleil ou un souffle d'air frais jusqu'au jour de leur abattage. Et ainsi de suite. C'est pas une perspective dont on peut être fier en tant qu'être humain. Et pouvoir se projeter dans un avenir où on saura que l'alimentation qu'on a dans notre assiette, elle est de bonne qualité, elle a été obtenue de façon éthique, elle est durable, que ça s'inscrira dans un projet pour les générations à venir, un avenir dans lequel on mangera moins de viande, à la fois pour notre santé et pour notre portefeuille et pour l'éthique, c'est une perspective qui est, je crois, une perspective de progrès, qui améliorera notre bien-être.
Cédric Villani, il y a un sujet dont on parle rarement, mais qui vous importe, c'est la disparition des insectes. Des espèces entières sont en train de disparaître, et à terme, vous le dites, c'est une mauvaise nouvelle pour l'humanité, pas seulement pour les insectes.
Je dirais pas une mauvaise nouvelle, je dirais un cataclysme. Un anéantissement. On peut penser aux insectes comme à des petites bêtes qui nous gênent parce qu'elles piquent ou parce qu'elles grattent ou qui sait quoi. Mais la vérité, c'est que sans insectes, il y a simplement tous les écosystèmes qui s'écroulent. Que ce soit les animaux qui se nourrissent d'insectes ou les services qui sont rendus à l'agriculture. Sans insectes pollinisateurs, vous n'avez pas de fruits et légumes parce qu'il y a tellement de cultures qui en dépendent. Sans les insectes, vous n'avez pas de recyclage des matières organiques. Enfin, ce sont toutes les chaînes alimentaires, tous les cycles qui se retrouvent brisés. C'était le thème du Twitch de l'émission que j'ai animée sur la chaîne de campagne de Yannick Jadot sur Twitch il y a une dizaine de jours, sur les insectes, en émission qui s'occupera sous le nom de Fond Vert de traiter de sujets de fond dans l'actualité politique, des sujets qui devraient être à notre agenda toutes les semaines, voire tous les jours, tellement ils sont importants. On a parlé de l'effondrement des insectes la dernière fois. La prochaine fois, on parlera de l'eau potable. Encore la prochaine fois, on parlera de la conquête spatiale et de tout ce que l'espace peut nous apprendre sur l'écologie, sur notre environnement, sur la géologie, sur notre planète. Et ce sont là, pour moi, des enjeux majeurs au confluent entre science et politique qu'il faut remettre inlassablement sur le tapis. Alors, pour les insectes, oui, on a une situation d'effondrement qui est phénoménale. Dans certains territoires de nos contrées, on a vu une division par quatre de la biomasse des insectes en seulement une douzaine d'années. Et les pesticides utilisés dans l'agriculture intensive, mais aussi les fongicides, mais aussi les herbicides, ont leur rôle, jouent une part majeure dans cet effondrement. Ce sont pas les seuls, bien sûr, c'est pas le seul facteur. C'est aussi l'artificialisation des sols dans un contexte où les terres de campagne, les terres arables sont tellement précieuses qu'on ne peut plus se permettre de les sacrifier à tout va. C'est aussi la pollution lumineuse dans un contexte où il y a un dérèglement massif des populations animales. Et tout ça, ça fait partie de toutes ces choses sur lesquelles nous devons agir pour retrouver une cérémonie et une harmonie dans la nature. Vous allez me dire, on va dire, c'est très important, là, maintenant, à l'instant T, d'utiliser telle dose de pesticides pour garantir le rendement. Je vous dirais, c'est pas ça qui va sauver l'agriculture sur le long terme, c'est pas ça qui va nous permettre de manger plus sain, c'est pas ça qui nous apporte du bien-être. Avoir en revanche la conviction que dans nos générations futures continueront à connaître une nature qui bruisse de tous les murmures des insectes, des oiseaux, des animaux qui font le charme de cette planète. Avoir une alimentation qui est saine et dont on sait qu'elle ne sera pas dominée par des substances qui vous empoisonnent à petit feu, là, c'est un enjeu majeur pour nous rendre heureux.
Cédric Villani, vous êtes enseignant-chercheur. Aujourd'hui, le monde de la recherche se plaint de ne pas être assez bien traité. Comment améliorer la recherche ?
La France est déjà un pays de pointe de recherche, incontestablement, de façon assez inégale d'un sujet à l'autre. Et c'est avec fierté que je rappellerai que c'est en mathématiques que la France a le plus d'influence dans le monde, parmi toutes les disciplines. La France est aussi une grande nation en matière de recherche environnementale. Et par exemple, nous avons les recherches sur les pôles qui sont capitales pour les questions d'environnement, aussi bien sur les questions pour observer le réchauffement climatique actuel et passé, hein, pour savoir, par exemple, en fouillant dans les carottes glaciaires, qu'est-ce qu'il y a eu comme taux de CO2 dans l'atmosphère sur les centaines de milliers d'années passées, des travaux qui ont rendu des chercheurs français comme Jean Jouzel ou Valérie Masson-Delmotte mondialement célèbres. On en est très fiers. Les travaux sur la biodiversité, je pense à ceux que mon collègue Yvon Lemao a menés sur les espèces des pôles, justement, pour rester dans ce secteur, ont été mondialement suivis, et ainsi de suite. Maintenant, nous avons aussi le devoir de nous renforcer sur ces thématiques qui sont dans l'air du temps, sur l'environnement en général. Je fais entièrement confiance à mes collègues enseignants-chercheurs pour aborder les grands sujets d'avenir à condition qu'on leur en donne les moyens. Ça veut dire des moyens financiers, ça veut dire des moyens humains. Et en premier lieu, il s'agira de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur et l'accès aux carrières de recherche de nos jeunes, en revalorisant les missions d'enseignants-chercheurs, en revalorisant les salaires aussi, en augmentant les budgets de la recherche, aussi bien en augmentant le budget de la recherche publique qu'en travaillant à augmenter l'investissement privé, bref, pour faire que la France soit bien dans les clous par rapport à son ambition de la stratégie de Lisbonne, des 3% du produit intérieur brut, aussitôt que possible. La loi de programmation pour la recherche sur le volet financier va dans la bonne direction, même s'il y a quelques absurdités, par exemple sur la recherche polaire ou par exemple sur la recherche en énergie renouvelable que je ne m'explique pas, mais globalement elle va dans la bonne direction, sauf qu'elle est trop lente. Ça fera partie des priorités des écologistes que d'accélérer ce calendrier d'augmentation du budget de la recherche.
La France envoie la ministre des Sports aux Jeux d'hiver en Chine. Est-ce que la France aurait dû boycotter ces Jeux en raison du génocide dont sont victimes les Ouïghours ?
Je fais partie des députés qui ont œuvré pour que soit reconnu à l'Assemblée nationale le génocide ouïghour. Et cela a été avec succès puisque une très forte majorité des députés ont voté cette résolution reconnaissant le génocide des Ouïghours. Il me paraît absurde que la France, quelques jours après que la représentation nationale a voté, a reconnu ce génocide ouïghour, il me paraît absurde que la France envoie une délégation officielle aux Jeux Olympiques à Pékin comme si de rien n'était. Et il me semble que à minima, il aurait fallu un boycott diplomatique comme d'autres grandes nations occidentales l'ont fait.
Dernière question, Cédric Villani, c'est bientôt le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Vous avez obtenu du président Macron qu'il reconnaisse la responsabilité de la France dans l'assassinat de Maurice Audin. Que devrait faire la France pour permettre une réconciliation totale avec l'Algérie sur la question de la colonisation ?
D'abord, je dois dire que le président Macron a eu à plusieurs moments dans son mandat des actes forts sur le travail de réconciliation avec l'Algérie, avec un dossier sur lequel je me suis beaucoup investi, qui était la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin et par la même occasion la reconnaissance de la torture en Algérie durant la guerre. C'était une déclaration du 13 septembre 2018 qui pour moi fait partie des déclarations historiques des gouvernements français de ces dernières années. Mais aussi, il y a eu d'autres actions importantes, un travail de mémoire qui a été accompli à l'occasion du rapport Stora. Il y a eu tout le travail de mémoire autour de Ali Boumendienne. Il y a eu la reconnaissance de tout ce qu'ont subi les pieds noirs, la reconnaissance aussi sur un autre registre de la souffrance harkie et de la responsabilité de la France dans ce qui leur est arrivé. Il y a eu récemment la reconnaissance de certains massacres. Bref, il y a eu un travail qui s'est avant tout basé sur le travail des historiens que je dois saluer. Maintenant, on ne revient pas sur, 150 ans ou quelque chose comme ça, d'histoire coloniale en quelques années. C'est un travail qui demande de la persévérance, des liens tissés. Chaque fois que j'ai pu m'impliquer dans ce dossier, qui m'est extrêmement sensible aussi par mes origines algériennes, au sens où je suis fils de pieds noirs et au sens où ma famille a été présente en Algérie durant toute la période de la colonisation, les uns médecins, les autres fonctionnaires, les autres enseignants, etc., etc. Je pense qu'il est extrêmement important que nous puissions avoir des actions communes, des actions de progrès, des actions qui parlent à la jeunesse algérienne, des actions qui organisent des coopérations scientifiques, et je m'enorgueillis d'avoir été le président du prix Maurice Audin de mathématiques, prix franco-algérien de mathématiques pendant des années, mais aussi des actions de coopération plus généralement, des coopérations aussi sur les grands dossiers environnementaux, sur le dossier des énergies renouvelables, avec un pays, l'Algérie, qui a des conditions, en particulier pour le développement du photovoltaïque, extraordinaires. Un travail sur l'éducation et l'enseignement supérieur avec un pays, l'Algérie, qui a des ressources phénoménales en matière de jeunesse. Un travail qui devra se faire aussi avec la culture, avec la mise en place d'émissions, de canaux, de rendez-vous réguliers qui fassent que ce travail de réconciliation, ce ne soit pas juste un travail tourné vers le passé, mais aussi un travail tourné vers le futur. La bonne coopération de part et d'autre de la Méditerranée.
Merci Cédric Villani. Je rappelle que vous êtes député de l'Essonne, mathématicien et membre de l'équipe de campagne de Yannick Jadot. Bonsoir.
Merci à vous. Très bonne soirée.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.